Chapitre 6. Le lendemain, la soirée était fraîche, sans être positivement froide pour l'époque de l'année, au petit village de Baxdale, dans le Somersetshire. Il n'y avait pas de lune, l'air était calme et le temps couvert. Les habitants trouvaient que c'était une nuit de Noël, aussi belle qu'on pouvait la souhaiter. Vers 8 heures, l'unique rue du village était déserte, sauf à l'extrémité occupée par la taverne. On était chez soi et l'on regardait cuire le souper. La vieille église, un peu écartée des habitations, semblait ce jour-là plus solitaire encore sous les rares étoiles qui perçaient les nuages. Aucune lumière ne filtrait à travers les volets bien clos du presbytère adossé au clocher. Le vicaire avait bien tiré ses rideaux. Une seule fenêtre brillait dans la nuit, c'était celle d'une maison isolée que le cimetière du village séparait du presbytère. À cette fenêtre était debout un homme dont les yeux scrutaient les ténèbres. L'homme était Richard Turlington. Tout à coup, une lueur fugitive, comme d'une allumette, brilla derrière l'une des tombes. Aussitôt, Turlington sortit de la chambre où il faisait le guet, traversa le jardin derrière la maison, franchit une ruelle qui séparait la maison du cimetière et y entra par une petite porte du mur d'enceinte. Un homme de taille athlétique sortit de derrière les arbres et s'approcha de lui. « Tu as pris une chambre à l'auberge ?» lui dit Turlington. « Oui, maître. As-tu trouvé le four abandonné qui est derrière le mur de mon verger ?»« Parfaitement. Alors, écoute, nous n'avons pas de temps à perdre. Tu te cacheras ici, derrière ce monument. Sur le coup de 9 heures, je viendrai avec l'homme que tu sais. Il doit aller rendre visite au vicaire, là-bas dans le presbytère. Je m'arrêterai ici, à cette place, et je dirai. « Maintenant, vous trouverez votre chemin tout seul, puis je retourne sur mes pas. Quand je serai assez loin, je donnerai un coup de sifflet. Alors tu te mets à le suivre et tu l'assommes avant qu'il n'ait quitté le cimetière. Tu as ton gourdin ?» Thomas Wilfang leva le redoutable bâton qu'il tenait à la main. Turlington lui tâta le bras. « Qu'est-ce que ce tremblement ? » dit-il d'un ton de dépit. « On m'a dit que tu as déjà eu des attaques de délire, ivrogne. Tiens !» Il lui tendit un flacon d'eau-de-vie que l'autre vida d'un trait. « Maintenant, ça va mieux, maître !» dit l'Hercule. Turlington s'assura qu'en effet son bras était plus ferme. Wilfang brandit son gourdin et le fit retomber lourdement sur un tertre qui était durci par le froid. « Eh, que dites-vous de ça, mon maître ?» Turlington lui donna ses dernières instructions. Lorsqu'il aura son affaire, n'oublie pas de lui prendre sa montre et ses bijoux. Assure-toi qu'il est bien mort, puis va au four. Là, tu trouves de quoi te changer et un tonneau de chaux vive où tu plonges les vêtements que tu as quittés. Ensuite, tu enfiles le sentier qui mène à la grande route, tu tournes à gauche et tu n'as plus que 3 miles à faire pour arriver à la ville de Harminster. Là, tu couches la nuit et, le matin, tu prends le train de Londres. Le lendemain, tu te présenteras au bureau d'Ossenfriar, tu demandes le commis principal et tu lui dis que tu viens toucher ton argent. Tu signeras le reçu et on te comptera tes 100 livres. Compris ? Wilfang fit un signe d'intelligence et disparut derrière les tombes. Turlington reprit le chemin de sa maison. Il était déjà dans son jardin, lorsqu'il entendit des pas dans la ruelle qu'il venait de traverser, du côté où elle longeait la maison. Il s'approcha et vit passer dans le champ de la fenêtre éclairée un homme qui marchait très vite. Une longue barbe noire et un chapeau rabattu sur les yeux lui cachaient presque entièrement le visage. En questionnant les domestiques, Turlington apprit que c'était un ingénieur que l'on rencontrait depuis quelques jours dans les environs, et qui se disait occupé à des travaux d'arpentage. Cette explication ne satisfit qu'à demi son esprit soupçonneux et inquiet. On ne fait pas de l'arpentage pendant la nuit. Que venait chercher cet homme qu'il avait vu rôder autour de la maison? Cet homme venait chercher, ce qu'il trouva un peu plus loin dans un trou du mur d'enceinte, une lettre d'une jeune personne. Il la lut à la clarté d'une lanterne sourde qu'il tira de sa poche. on le félicitait du succès de son déguisement et on l'avertissait que le lendemain, avant l'aube, on se tiendrait prête à la fenêtre de la chambre à coucher pour s'enfuir avec lui. Signé Nathalie. La lettre commençait « Mon Lance bien-aimé ». Turlington avait fermé les volets de sa chambre et regardé sa montre. Il était 9h-15. Il prit son sifflet de chasse et se dirigea vers le salon. Le tableau qu'il eut devant lui, en ouvrant la porte, exprimait la plus douce intimité de la vie de famille. Un bon feu pétillait dans la cheminée, de solides volets derrière les épais rideaux rouges fermaient hermétiquement les deux portes-fenêtres qui donnaient sur le jardin. Deux lampes répandaient une clarté douce. Dans un vaste fauteuil à bras, sommeillait Sir Joseph. Dans un autre était assise Miss Lavinia qui tricotait. Une bergère, placée à l'écart près d'une table ronde, était occupée par Nathalie. Elle avait la tête appuyée sur une main. Un livre ouvert qu'elle ne lisait pas était sur ses genoux. Sur sa figure pâle et défaite, on lisait les traces des secrètes angoisses qui la tourmentaient depuis plusieurs mois. Turlington fit son entrée en fermant la porte avec bruit. Nathalie eut un soubresaut. Miss Lavinia le regarda d'un air de reproche, mais son but était atteint, il avait éveillé le vieux gentleman. « Si vous voulez faire une visite au vicaire, Greybrooke, lui dit-il, je crois qu'il est temps d'y aller. » Sir Joseph se frotta les yeux en regardant la pendule sur la cheminée. « Oui, oui, Richard, dit-il d'une voix endormie, je crois qu'il est temps. Où est mon chapeau ?» Sa sœur et sa fille essayèrent de l'en dissuader. Ils n'avaient qu'à envoyer un mot d'excuse. Il faisait si froid, il pouvait s'enrhumer. Sir Joseph hésitait, mais il avait pris l'habitude de faire chaque soir sa partie de tric-trac avec le vicaire. Il l'avait battu la veille chez Turlington et il avait promis de lui donner sa revanche le lendemain au presbytère. Le voyant indécis, Turlington affecta de croire qu'il n'osait aller seul la nuit par le cimetière. « Je vous accompagnerai, dit-il, en allant, et la servante du vicaire pourra vous reconduire. » Piqué au vif, Sir Joseph se leva de son fauteuil. « Je ne suis pas encore tombé en enfance, répliqua-t-il aigrement. « Je trouverai bien mon chemin. » Il embrassa sa fille sur le front. « N'ayez pas peur, Nathalie. Je serai de retour pour le vin chaud. Je n'ai pas besoin de vous, Richard. Restez. » Il envoya un baiser à Miss Lavinia et alla prendre son chapeau dans le vestibule. Turlington le suivit, s'excusant et demandant à l'accompagner au moins un bout du chemin. Ils sortirent ensemble. « As-tu remarqué la mine de Turlington depuis son retour ? » dit Miss Lavinia, restée seule avec sa nièce. « Il aura eu de mauvaises nouvelles à Londres. Il est d'une humeur. » « Je ne m'en suis pas aperçue, ma tante. » Un silence s'ensuivit. Miss Lavinia reprit son ouvrage. Nathalie feuilletait son livre sans le regarder, absorbée par ses pensées. Tout à coup, un sifflet se fit entendre du côté du cimetière. Nathalie tressaillit et poussa un faible cri. « Ma chère enfant, comme tu es nerveuse !» dit la tante. « Qui a-t-il donc là pour t'effrayer ?»« Je ne suis pas bien, ma tante. Tout est si calme ici pendant la nuit. Le moindre bruit me trouble. » Les deux femmes se turent de nouveau. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvrit brusquement et elles virent entrer Turlington. Il alla droit à un fauteuil, s'y plongea et prit un journal sans regarder personne ni dire un mot. « Est-ce que Joseph est au presbytère ?» demanda Miss Lavinia. « Oui !» Il fit cette réponse d'un ton bref et maussade, sans lever les yeux. Miss Lavinia revint à la charge. « Avez-vous entendu le sifflet tout à l'heure, pendant que vous étiez dehors ? Nathalie en a été tout effrayée. » Il tourna la tête. « Mon berger, sans doute, dit-il après un moment de réflexion. Il aura sifflé son chien. » Il reprit sa lecture. Miss Lavinia fit un signe à sa nièce pour lui faire remarquer la mine renfrognée de son prétendu. Nathalie, ayant jeté sur lui un regard plein d'aversion, appuya sa tête sur l'épaule de sa tante. « Tu as sommeil, mignonne ?» dit la vieille dame à demi-voix. « Je suis mal à mon aise, ma tante, » répondit Nathalie de même. « Je ne sais pourquoi. Je donnerais tout au monde pour être à Londres, pour entendre le bruit des voitures dans la rue et les voix des passants. » Turlington, tout à coup, jeta son journal. « Qu'est-ce que c'est que ces cachotteries-là » s'écria-t-il d'un ton rogue. « Qu'avez-vous à chuchoter ensemble ?»« Nous n'avons pas voulu vous troubler dans votre lecture, Richard, » dit la vieille dame très froissée. « Voilà tout. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose de fâcheux ?»« Pourquoi diable croyez-vous ça ?» Miss Lavinia jugea de sa dignité de ne pas répondre. Nathalie se pressa contre sa tante. 9 heures sonnaient lentement à la pendule. Turlington quitta brusquement son fauteuil et s'approcha des deux femmes. « Ah ah, soyons bons amis » dit-il avec un gros rire. « Ce n'est pas comme ça qu'on passe la nuit de Noël. Voyons, venez donc causer un peu. Ma petite Nathalie !» Il entoura de son bras et fit un effort pour l'arracher de son siège. Elle devint très pâle et se débattit entre ses bras. « Je suis souffrante. Laissez-moi. Je suis malade. » Il fut sourd à ses prières. « Comment, dit-il, je suis presque votre mari et je n'aurai pas seulement un baiser. Nous verrons bien. » Il la maintint dans ses bras, cherchant à lui retourner la tête pour l'embrasser. Elle résistait avec toute la vigueur que peut déployer une femme qui se sent outragée. Miss Lavinia, indignée et tremblante, essayait d'intervenir lorsqu'un bruit du dehors fit cesser cette ignoble lutte. C'étaient des pas sur le sable de l'allée du jardin. Puis un caillou vint frapper contre une vitre. Ils restèrent tous trois un moment immobiles, ne sachant que penser. Alors on entendit comme le bruit d'une lourde chute, puis un gémissement, et tout rentra dans le silence. Les regards effarés des deux femmes se portèrent sur leur hôte. Ils semblaient encore plus perplexes et plus effrayés qu'elles. « Richard !» dit Miss Lavinia en montrant du doigt la fenêtre. « Il se passe là quelque chose qui n'est pas dans l'ordre. Ne voulez-vous pas voir ce que c'est ?» Il restait comme pétrifié à la même place, pâle et les yeux fixés sur la fenêtre avec une expression de terreur. Soudain, un cri retentit dans la nuit, un cri qui était un râle. Nathalie ne fit qu'un bond jusqu'à la fenêtre. Elle connaissait cette voix. Elle arracha le rideau et, de la voix et du geste, appela sa tante pour l'aider. À elles deux, elles soulevèrent la lourde espagnolette et ouvrirent d'abord les volets, puis la porte vitrée. Un flot de lumière inonda le jardin. Nathalie vit un homme par terre, baigné dans son sang. C'était son père. Sur le côté gauche de sa tête chauve, au-dessus de l'oreille, on voyait une horrible blessure. Il ouvrit les yeux, eut l'air de la reconnaître, puis s'évanouit de nouveau dans ses bras. Ses mains et ses habits étaient tachés de boue. Évidemment, il s'était traîné jusqu'à la maison en trébuchant et en tombant plus d'une fois. Sa sœur essuyait le sang qui coulait sur sa figure. Sa fille se tordait les mains. Elle s'accusait d'avoir trompé ce père si bon, si indulgent. Elle implorait son pardon en sanglotant. Les domestiques qui avaient entendu ses cris se précipitèrent dans le salon. Leur arrivée tira leur maître de la stupeur qu'il avait saisie. Il sortit dans le jardin et, avec l'aide d'un valet de pied, souleva Sir Joseph afin de le porter dans la maison. On le déposa sur un canapé. Nathalie, à genoux, lui soutenait la tête pendant que Miss Lavinia étanchait le sang avec des linges trempés dans l'eau froide qu'apportaient les servantes. Le valet fut envoyé quérir le médecin qui demeurait à l'autre bout du village. Turlington se tenait debout, immobile, auprès du blessé. Nathalie fut frappée de l'étrange persistance avec laquelle ses yeux se fixaient sur la plaie béante. Ce fut lui qui, le premier, interrogea le docteur qui venait d'entrer. « Est-il frappé à mort ou vivra-t-il » Le docteur examina la blessure. Son visage se rasséréna. « Ne vous inquiétez pas, dit-il, ce ne sera rien. Un peu plus bas ou un peu plus sur le devant de la tête, le coup aurait pu avoir des suites sérieuses. Mais ce que je vois n'est pas grave. S'il est bien soigné, il sera sur pied avant 2 ou 3 jours. » À cette bonne nouvelle, Nathalie et sa tante tombèrent à genoux en soupirant, les yeux remplis de larmes de joie. Le médecin se mit à panser la plaie. Il était fort étonné de l'indifférence que montrait le maître de la maison qui, debout à la fenêtre, regardait dans la direction du cimetière d'un air préoccupé. Les deux femmes seules répondaient aux questions du médecin. On constata que sœur Joseph n'avait plus sa montre ni sa bourse. Lorsqu'il fut nécessaire de le porter au premier étage, ce fut le valet de pied qui aida le docteur. Son maître venait de sortir nu-tête et avait disparu dans le jardin. Sœur Joseph revint à lui pendant qu'on le transportait par les escaliers étroits et raides. Malgré les précautions qu'on prenait pour éviter les secousses, la douleur lui arrachait des gémissements. Dans cette maison d'une architecture fantaisiste, le corridor des chambres à coucher était à plusieurs niveaux. Arrivé à la porte de la première, le docteur demanda si c'était là que couchait le gentleman. C'était la chambre de Nathalie, mais pour éviter de descendre encore plusieurs marches et de tourner un coin, on décida que sœur Joseph serait déposée sur le lit de sa fille. Le docteur était à peine sorti, après avoir de nouveau réconforté les deux femmes, qu'on entendit le pas lourd de Turlington qui venait de rentrer dans la maison. Il avait été tout droit au four abandonné. Le costume qu'il avait préparé pour son complice s'y trouvait intact, il était évident que Will Fang n'y avait point passé. Que penser de tout cela? Il ne lui restait qu'à retourner chez lui pour voir si personne n'avait conçu des soupçons contre lui. Il monta les degrés jusqu'à l'entrée du corridor et, s'arrêtant à la porte ouverte de la chambre à coucher, « Qu'est-ce que ça signifie ? » demanda-t-il d'un ton grossier. Avant qu'on pût lui répondre, le valet de pied entra pour annoncer que le docteur était revenu sur ses pas et qu'il avait dit qu'il se chargeait de faire la déposition chez le constable du village. Turlington tressaillit et changea de couleur. « Ça me regarde ! » s'écria-t-il en redescendant 4 à 4. « J'irai avec lui !» On l'entendit entrouvrir la grande porte, puis la refermer, comme s'il avait oublié quelque chose. Il appela le domestique et lui dit qu'il pouvait s'en aller. Comme on était à court d'espace, le valet de pied couchait dans une soupente au-dessus de l'écurie, les servantes seules étaient logées dans la maison, au rez-de-chaussée. Nathalie, se penchant sur la rampe, put voir que Turlington fermait les portes et mettait les clés dans sa poche, après quoi il sortit et ferma de même à double tour la porte d'entrée. Les habitants étaient donc sous les verrous jusqu'à son retour. Que voulait dire tout cela? Cela voulait dire que la vengeance de Turlington n'était pas encore satisfaite. La vie de sœur Joseph le séparait toujours de l'argent qu'il convoitait, et les horreurs de cette nuit n'étaient pas finies. Les deux femmes se regardaient avec anxiété par-dessus le lit où reposait le père de Nathalie, qui maintenant sommeillait. Ce n'était pas de lui que pouvait leur venir la lumière. Elles en étaient réduites à se demander, dans une inquiétude poignante, ce que signifiait l'étrange conduite de Richard. Un instinct secret les avertissait qu'elles devaient s'attendre à quelque horrible découverte. La tante était la moins troublée des deux. Elle n'avait pas, comme Nathalie, le cœur oppressé par la conscience d'une faute. « Notre pauvre chérie est sauvée, » dit doucement Miss Lavinia. « Dieu a été bon pour nous. Nous sommes dans sa main, cela peut nous suffire. » Au même instant, on sonna violemment à la porte d'entrée. Les servantes se précipitèrent tout effarées dans la chambre à coucher. Encouragées par Nathalie, elles se risquèrent à ouvrir une fenêtre qui donnait sur le balcon. Un homme était en bas, dont l'obscurité ne permettait pas de distinguer les traits. Il leur parla, c'était le facteur du télégraphe. L'une d'elles descendit au vestibule et revint avec une dépêche qu'elle avait trouvée sous la porte. Le facteur s'était attardé à boire en route et la dépêche arrivait en retard de plusieurs heures. Elle était adressée à Nathalie. Celle-ci l'ouvrit, la laissa tomber et resta sans voix, la bouche béante, les yeux hagards de terreur. Miss Lavinia ramassa le message. Il était de Lady Winwood et conçu comme il suit. Lady Winwood, Hertford Street, Londres, à Nathalie Greybrook, place de l'Église, Baxdale, Somersetshire. Terrible nouvelle. R.E.T. connaît ton mariage avec Lance. Je ne le sais que d'aujourd'hui. Fuyez sans perdre un instant. Je n'ai pu avertir Lance, je n'ai pas ton adresse. J'espère que ceci vous arrivera avant le retour de R.T. Réponds si vous êtes en sûreté. Si je ne reçois pas de réponse bientôt, je pars moi-même. Miss Lavinia leva les yeux sur sa nièce. « Est-ce vrai ? » dit-elle en montrant du doigt la face pâle et contractée de Sir Joseph enfoncée dans les coussins du lit. Nathalie se couvrit le visage de ses mains. Elle chancelait et serait tombée si sa tante ne l'avait pas reçue dans ses bras. Lorsqu'elle eut repris ses sens, elle se confessa. Miss Lavinia l'écouta en silence et finit par prononcer le mot de pardon. Le blessé dormait toujours. Les minutes s'écoulaient dans le profond silence de la nuit. Ce fut presque avec soulagement qu'elles entendirent pour la seconde fois le bruit d'un caillou qui heurtait une vitre. « Miss Lavinia !» criait en bas une voix sourde. C'était celle du valet de pied. Elles ouvrirent la fenêtre. Ils désiraient leur parler en secret et ne savaient comment les rejoindre. Enfin, il avisa dans la cour une échelle qu'il appuya sur le balcon et, en un clin d'œil, il fut auprès des deux femmes. « Je ne suis pas tranquille, leur dit-il. J'irai voir ce qui se passe au village. C'est bien dur pour des dames comme vous d'être enfermées. Si je pouvais vous rendre service... » Nathalie prit la dépêche. « Il faut la faire parvenir à Lens, dit-elle à l'oreille de sa tante. Si je ne puis l'avertir, il sera ici avant le jour. » Miss Lavinia pâlit. S'il se rencontrait avec Richard, vite, fais-lui dire ce qui est arrivé avant qu'il ne soit trop tard. Nathalie écrivit à la hâte quelques lignes qui furent adressées à Lance sous son nom d'emprunt et elle y joignit la dépêche de Lady Winwood. Le valet partit avec la lettre. Les deux femmes restèrent seules. Un espoir secret les soutenait qu'elles n'osaient s'avouer. L'espoir que Lance viendrait les rejoindre en bravant le danger qu'elle redoutait pour lui. Au bout de quelques minutes, Sir Joseph ouvrit les yeux et demanda d'une voix faible ce qu'elle faisait là, dans sa chambre à coucher. Sa fille lui répondit qu'il était indisposé et qu'elle le veillait. Il porta la main à sa tête. « Vous avez raison, murmura-t-il, je ne suis pas bien. » Et il s'assoupit de nouveau. Épuisées par tant d'émotions, les deux pauvres femmes attendirent la marche des événements dans une stupeur résignée, silencieuse. Elles avaient verrouillé la porte et fermé les volets. Elles avaient prié ensemble, embrassé en pleurant le front pâle du malade qui dormait dans ses oreillers. Elles s'étaient dit l'une à l'autre « Nous vivrons avec lui ou nous périrons ensemble à la volonté de Dieu ». Miss Lavinia était assise sur le bord du lit, Nathalie sur un tabouret à ses pieds, la tête appuyée sur les genoux de sa tante. Le temps s'écoulait. L'horloge du vestibule venait de sonner. 10h ou 11, elles n'avaient pas compté, lorsqu'elles entendirent le signal de leur messager. Il revint avec un billet de Lance. Ce dernier leur annonçait qu'il suivait de près le porteur, qu'il ne voulait que prendre le temps d'entrer chez le vicaire, qui représentait ici l'autorité, pour y faire la déclaration de son mariage. Turlington était certainement pour quelque chose dans l'attentat qui venait d'être commis, et Nathalie avait besoin de la protection de son époux. Cette lettre, qui accusait ouvertement Turlington d'un guet-apens, leur fit tout à coup comprendre une foule de circonstances qui les avaient frappées sans qu'elles pussent les expliquer. Le domestique, de son côté, leur dit ce qu'il avait appris dans le village. Un étranger, un vieillard de taille athlétique, avait été trouvé sur la route près de l'église, en proie à une attaque de délire. C'était Lance lui-même qui avait trébuché sur cet homme en rentrant chez lui dans l'obscurité. On l'avait porté à l'auberge, où il fut reconnu pour un voyageur arrivé le matin même. Le constable, appelé sur les lieux, avait trouvé dans ses poches une bourse bien garnie et une montre en or dont l'origine n'était pas douteuse. Dans ses fantaisies incohérentes revenait sans cesse le nom d'un capitaine Goward. On avait cru comprendre, au milieu de ses divagations, que le délire l'avait pris au moment où il posait la main sur le cœur de Sir Joseph pour constater s'il battait encore. Il s'était cru sur la mer avec un matelot qui se noyait. Au moment où M. Turlington était entré dans la chambre, il avait cessé de parler. Le docteur, qui était encore là-bas avec M. Turlington, disait que cet homme n'en avait plus pour 10 minutes. Son récit terminé, le valet ouvrit la fenêtre pour se retirer, ne voulant pas être surpris par Turlington, qui pouvait rentrer d'un moment à l'autre. Au même instant, on entendit la voix de Lance qui les appelait d'en bas. Le valet disparut et Nathalie se trouva dans les bras de son époux avant qu'elle eût respiré une fois de plus. Pendant une seconde, une seule, elle laissa aller sa tête sur l'épaule de Lance, puis rendue au sentiment de la réalité. « Pourquoi venir ici ? » dit-elle. « S'il vous trouve chez lui, il vous tuera. Où est-il maintenant ?» Lance n'en savait rien. « Qu'il soit où il voudra, répondit-il, nous devons rendre grâce à Dieu que j'ai pu arriver avant lui. » Nathalie et Miss Lavinia se regardèrent avec effroi. Sir Joseph avait été réveillé par le bruit de la conversation. Il reconnut Lance. « Mon cher garçon, dit-il faiblement, je suis content de te voir. Comment as-tu fait pour venir jusqu'ici ?» Lance donna le premier prétexte plausible qui lui vint à l'esprit. Le malade s'en montra satisfait et se retourna en disant « Nous en recoserons demain. » Nathalie conjura de nouveau Lancelot de s'en aller, puisqu'il en était temps encore, et sa tante insistait dans le même sens. Il ne voulut pas les écouter. Il ferma les volets doublés de fer et remit l'espagnolette malgré leurs lamentations. Nathalie se tordait les mains avec désespoir. « Avez-vous vu le vicaire ? Dites-nous au moins si vous êtes ici d'après ses conseils. Viendra-t-il à notre secours ?» Lance hésitait. La vérité était qu'il se trouvait là contrairement aux sages recommandations du vicaire. Il fit une réponse évasive. « Si le vicaire ne vient pas, le docteur viendra dans tous les cas. Je lui ai dit que Sir Joseph avait besoin de lui. Courage, Nathalie, il sera ici en même temps que Turlington. » Au moment où ce nom s'échappait de ses lèvres, la voix de Turlington lui-même éclatait derrière le volet fermé, sans qu'aucun bruit eût annoncé son approche. « Vous avez pénétré chez moi avec effraction, dit-il d'un ton furieux, et vous ne sortirez pas par le même chemin. » Miss Lavinia tomba sur les genoux. Nathalie se réfugia près de son père, dont les yeux étaient tout grands ouverts et qui poussait un gémissement plaintif. On entendit d'abord Turlington descendre l'échelle qu'il retira aussitôt. Son complice était mort, il était désormais tranquille de ce côté. En rentrant, il avait vu Lancelot s'approcher de sa maison et l'avait laissé monter sur l'échelle avec une joie infernale, car il le savait dès lors en sa puissance. Une minute plus tard, il était devant la porte de la chambre à coucher et il essayait d'ébranler la serrure. « Ouvrez, dit-il, rendez-vous. J'ai mon revolver et j'ai le droit de tirer sur un homme qui pénètre chez moi la nuit. Si vous n'ouvrez pas avant que j'aie compté 3, que votre sang retombe sur votre tête. 1 ! » Lance, qui était sans armes, se dirigeait vers la porte avec l'intention de l'ouvrir. Nathalie l'entoura de ses bras pour le retenir de force. 2 ! Lance essayait toujours de se dégager. Ses yeux tombèrent sur le lit, qui était juste en face de la porte, dans la direction du tir. La vie de Sir Joseph, Turlington savait ce qu'il faisait, était à ce moment bien plus menacée que celle de Lance. Il réussit à s'arracher de l'étreinte de sa femme, fut d'un bond près du lit et souleva le vieux gentleman pour le changer de place. 3 ! La détonation suivit de près. Une balle traversa le panneau de bois, effleura le bras gauche de Lance et s'enfonça dans l'oreiller où la tête de Sir Joseph reposait encore un moment auparavant. Turlington avait perdu son premier coup qui visait à l'argent du père. Le second était destiné au gendre. Lance, qui soutenait toujours Sir Joseph dans ses bras, s'était retiré avec les deux femmes dans le coin de la chambre à gauche de la porte. La seconde balle entra obliquement par le bois et alla se loger dans le mur à leur gauche. « Je vous entends !» disait le mécréant derrière la porte. « Je vous atteindrai par le mur !» On l'entendit cogner contre la muraille afin de distinguer la charpente solide du plâtras qui remplissait les minces panneaux. À ce moment, Lancelot ne perdit point sa présence d'esprit. Il déposa Sir Joseph sur le tapis et fit signe aux deux femmes de se coucher à côté de lui sans proférer une parole. Leur vie dépendait d'un mouvement qui pût guider le meurtrier. Celui-ci avait choisi sa place. Le canon de l'arme grattait le mur, il pressa la détente. Le troisième coup avait raté. On l'entendit, avec un juron, se demander ce qu'avait son revolver. Un silence s'ensuivit, assez profond pour qu'on pût distinguer le bruit sec du chien. Examinait-il l'arme ? Avant qu'il ne se fût posé la question, il y eut derrière la porte une décharge formidable, suivie bientôt d'une lourde chute. Lance fit signe aux autres de ne pas bouger encore. Ils attendirent quelques minutes, rien ne remuait plus au dehors. Tout à coup, des voix se firent entendre à la porte d'entrée qui était restée ouverte. C'étaient les domestiques, des voisins, avec eux le vicaire, qu'avait réveillé le bruit des détonations. On montait l'escalier. Un cri d'horreur s'échappa de toutes les poitrines. Lance sortit de la chambre, il referma la porte avant que Nathalie pût le suivre. Le corps inanimé de Turlington était étendu sur le palier. Pendant qu'il avait examiné le canon, le quatrième coup du revolver était parti, la balle était entrée par la bouche et sortie derrière la tête. 6 semaines après ces événements, Monsieur et Madame Lancelot Lindsay, de retour de leur voyage de noces, dînaient en famille à Muswell Hill avec Lord et Lady Winwood. Les journaux annonçaient que, par suite de la mort de Monsieur Turlington, la maison Pizzituti, Turlington et Branca avait passé entre les mains de Bulpit frères.